Suspensée.
Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être à l'écoute des programmes de VOA Afrique. Yacouba Ouédraogo de retour avec vous pour vous présenter ce bulletin d'information. Il est 15h ici à Washington, 19h en temps universel. L'Iran a menacé de venger la mort du brigadier général des gardiens de la révolution, Abbas Nilforoshou, tué dans une frappe israélienne au Liban. Téhéran accuse Washington d'être un partenaire de ce qu'il qualifie de gang criminel au pouvoir à Tel Aviv. Les crimes du régime sioniste se déroulent sous l'ombre du soutien inconditionnel du régime américain, a indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien Nasser Kanani. Le vice-président iranien chargé des affaires stratégiques Mohammad Javad Zarif a déclaré que la réponse de Téhéran à Israël aura lieu au moment opportun que l'Iran choisira, selon l'agence officielle IRNA. Le pape François a exprimé depuis Bruxelles sa douleur devant l'élargissement du conflit au Proche-Orient et demandé un cessez-le-feu immédiat au Liban martyrisé selon lui. Près d'un million de personnes pourraient avoir été déplacées par les frappes israéliennes sur le Liban selon le premier ministre libanais Najib Mikati. Le programme alimentaire mondial a lancé une opération d'urgence pour fournir une aide alimentaire à un million de personnes affectées par cette récente escalade du conflit au Liban selon cette agence de l'ONU. Les forces armées américaines ont affirmé ce dimanche avoir tué 37 terroristes, dont des membres de Ouras al-Din, groupe lié à l'État islamique et à Al-Qaïda, dans deux frappes distinctes en Syrie les 16 et 24 septembre. Un autre haut responsable de Ouras al-Din, Abu Abdul Rahman al-Maki, avait été abattu par les États-Unis fin août en Syrie, selon CENTCOM, le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient. Les États-Unis comptent environ 2500 militaires en Irak et près de 900 en Syrie au sein de la coalition internationale créée en 2014 pour combattre le groupe djihadiste État islamique. Parmi les fidèles alliés de l'Ukraine, le Danemark a annoncé donner à Kiev 174 millions d'euros pour l'aider à s'armer ainsi que la mise en place d'un pôle industriel de défense d'anneaux ukrainiens. Il s'agira de livrer au front des armes et des équipements produits en Ukraine et financés par le Danemark et par des avoirs russes gelés, a indiqué le ministère de la Défense dans un communiqué. Le Danemark a conclu fin février un accord de sécurité de 10 ans avec Kiev dans la foulée d'accords similaires signés par Berlin, Londres et Paris.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le Rwanda a confirmé 6 décès et 20 cas de maladie de Marburg depuis le début de l'épidémie. C'est ce qu'a déclaré ce dimanche son ministre de la Santé, Sabine Nsanzimana. Il a ajouté que la majorité des victimes sont des professionnels de la santé travaillant dans des unités de soins intensifs. D'après lui, plus de 8% des symptômes de la maladie de Marburg comprennent de violents maux de tête, des vomissements, des douleurs musculaires et des maux d'estomac. Et d'après justement le ministre de la Santé rwandais, plus de 8% des patients sont des professionnels de la santé. L'avocat sud-soudanais Wani Santino appelle la communauté internationale et les partenaires internationaux du Soudan du Sud à ignorer le report des élections et à exiger leur tenue. Il soutient que les pays étrangers ne devraient pas reconnaître le gouvernement de Djouba s'ils refusent de permettre aux citoyens de voter leurs propres dirigeants dans le cadre d'une démocratie. Le gouvernement affirme que cette décision est nécessaire pour achever la rédaction de la constitution effectuée, un recensement et enregistrer les partis politiques avant les élections. Les secours ont repris ce dimanche matin pour la recherche d'au moins 48 migrants qui auraient disparu hier au large des îles espagnoles de Canaries après le naufrage de leur embarcation. C'est ce qu'a annoncé l'organisation espagnole de sauvetage en mer Salvamento Marítimo. Le naufrage qui a fait au moins 9 morts et 48 disparus selon les secours a eu lieu à environ 7 km du port de la Escata sur l'île del Hierro, une des îles de l'archipel espagnol des Canaries. Il est peu probable que nous puissions retrouver davantage de corps dans les prochaines heures, a déclaré le président de la région des îles Canaries, Fernando Clavijo. En sport, l'Éthiopien Melkise Bengesha a remporté ce dimanche la 50e édition du marathon de Berlin en 2h03 min 17 secondes. Il a devancé en 5 secondes de moins le Kenyan Cyprian Kukut et son compatriote Aimano Aliou. À 24 ans, c'est son premier succès dans l'un des 6 marathons majeurs. Chez les dames, l'Éthiopienne Tigis Ketema s'est imposée en 2h16 min 42 secondes devant deux autres coureuses éthiopiennes, Mestawo Fikir et Bosena Mulati. En football, la finale de la Coupe du Monde des clubs 2025 aura lieu au MetLife Stadium situé à New Jersey, ici aux États-Unis bien sûr. Cette enceinte doit accueillir aussi la finale du Mondial en 2026, selon l'annonce faite par la FIFA. Outre le MetLife Stadium, des rencontres vont se jouer dans 10 autres villes américaines, Atlanta, Charlotte, Cincinnati, Los Angeles, Miami, Nashville, Orlando, Philadelphie, Seattle et Washington. C'est tout pour ce bulletin. Merci à vous de l'avoir suivi. Le prochain, c'est dans un peu moins de 2 heures.
Foi et tradition.
Vérité et doctrine.
Le dialogue des religions.
Sur la voie de l'Amérique.
Bienvenue dans le dialogue des religions sur VOA Afrique. Eric Maniakiza avec vous. Josèle Morissin assure la réalisation. Ce soir, nous plongeons au cœur de l'histoire et du patrimoine culturel de l'Afrique de l'Ouest en explorant un site emblématique, le tombeau des Askia, situé à Gao, au Mali. Érigé en 1495 par l'empereur Askia Mohamed, ce monument témoigne de la grandeur de l'empire Songhaï, qui fut à son apogée l'un des plus vastes et puissants empires du continent. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2004, ce tombeau est bien plus qu'un simple lieu de repos. Il incarne l'héritage spirituel et religieux d'une région qui a marqué l'histoire de l'Afrique par son rayonnement islamique. Dans cette édition, avec nos deux invités, nous allons explorer les multiples facettes de ce site, tant historique que religieuse, et comprendre pourquoi il continue d'inspirer fierté et respect. Lassana Cissé, consultant et ancien directeur national du patrimoine culturel du Mali, il est actuellement directeur du comité national malien du Conseil international des monuments et des sites, est avec nous en ligne. Monsieur Cissé, bonsoir.
Bonsoir monsieur, comment allez-vous?
Ça va très bien, bienvenue dans le dialogue des religions. Mohamed Abdelhari El Khalil est également avec nous. Il est sociologue et philosophe engagé, spécialiste des questions sociales et sécuritaires du Sahel. Il est aussi promoteur du symposium du Sahel pour l'éradication de l'extrémisme violent, religieux et du terrorisme. Mohamed, bonsoir.
Oui, bonsoir monsieur Eric, bonsoir cher Inésissé.
Merci à vous tous d'être avec nous. Lassana Cissé, je vais commencer avec vous. Pouvez-vous nous parler du contexte historique dans lequel le tombeau des Askia a été construit et comment il reflète la puissance de l'empire Songhaï à cette époque?
Merci bien pour cette question importante. Le contexte historique, hein, c'est-à-dire le tombeau des Askia, c'est vrai, c'est lié à une dynastie, celle des Askia. Et donc, comme vous l'avez dit, sa construction remonte à 1495, c'est une estimation. Et il est attribué à Mohamed Abou Bakar Fila Bidi. Et à Mohamed, qui est le neveu de Sonny Ali Ber. Sonny Ali Ber, ça dit Ali le Grand, en Soral, qui a fait un long règne de 1464 à 1492 et a étendu les limites des territoriales du Rhin grâce à de nombreuses victoires sur les Touaregs, les Boers et les Merci, et fonda donc l'Empire. À la mort de Sonny, Mohamed Askia, donc Askia Mohamed, s'empara du pouvoir et inaugura le site des Askia. Donc la pyramide, disons la structure pyramidale qui est le tombeau des Askia, parce qu'en fait c'est une structure, a été édifiée par donc ce empereur. Et l'empire de Songhaï s'est effondré en 1591 à la suite de l'invasion des armées du sultan marocain Ahmed IV El Mansour, conduit par un mercenaire ibérique, le Pacha Djouder. Donc, durant toute cette période, vous l'avez dit, hein, l'empire Songhaï, qui fut un empire puissant et très vaste, a atteint son apogée sous le règne de l'Askia. Mais en tant qu'élément matériel, tout tournait autour de ce tombeau, parce que apparemment c'est là où est enterré. Mais en fait, c'est un ensemble d'éléments qui constituent. Il y a l'esplanade, il y a le cimetière, et d'autres éléments qui sont donc constitutifs du site inscrit sur la liste du patrimoine mondial. Voilà ce que je pouvais dire en parlant de contexte historique. Et l'islam, avec Askia Mohamed, contrairement à Sonny Ali Ber, a construit son empire en se servant beaucoup de l'islam. Il a effectué un pèlerinage à la Mecque. Oh. À son retour, il a donc construit, à l'image d'ailleurs de son prédécesseur de l'empire du Mali, Kankou Moussa, qui a construit la grande mosquée de Guingueré Ber à Tombouctou en entre 124. Voilà ce que je pouvais dire sur ça.
Oui, Mohamed, quel rôle a joué l'islam dans la construction de ce monument et comment l'empereur Askia Mohamed a-t-il utilisé la religion pour consolider son pouvoir et son influence dans la région?
Bonsoir, cher Eric, et bonsoir, cher NSC. Je vous remercie pour l'opportunité à échanger sur vraiment une thématique qui est si intéressante, parce que si vous voyez bien tous ces mausolées aujourd'hui, ces lieux très très importants pour l'Afrique et pour plus précisément le Mali et plus précisément pour les régions du Nord, qui à des moments donnés pendant la crise malienne ont été attaqués. Je pense qu'aujourd'hui, cette question, quel a été le rôle de l'islam ou comment Sony Alibert, est-ce qu'à un moment, disons, c'est comme on l'appelle, s'appuyer sur la religion pour vraiment consolider son pouvoir et son empire sur les pays, le peuple des pays africains. Ce symbole, ce monument symbolique signifie d'abord la grandeur de l'empire Songhai. Ça, c'est un élément très important qu'il faut souligner. Et témoigne également de la puissance et de la richesse de l'empire qui s'épanouit du 15e au 16e siècle. Et grâce au contrôle du commerce transsaharien, notamment du sel et de l'or. Et l'ensemble, y compris la tombe pyramide, pyramide, les deux mosquées, à tout plat, les cimetières de la mosquée, de l'espace, des assemblées en plein air, fut édifié lorsque Gao devint la capitale de l'empire Songhai. Et après, Askia Mohamed est fait de l'islam la religion officielle de l'empire de son retour de la Mecque. Donc, après avoir été à la Mecque, à son retour, s'inspirant de la charia islamique et de la loi islamique, il a cherché vraiment à donner une éducation islamique à sa communauté. Ça, c'est un élément très, très important qu'il faut souligner. Et le tombeau des Askia est un magnifique exemple de la façon dont, comme on appelle, les traditions locales ont adopté les exigences de l'islam en créant une forme d'architecturale unique dans l'ouest de l'Afrique au 15e et au 16e siècle. Ça, c'est des éléments qu'il faut vraiment souligner. Également, le tombeau des Askia reflète la façon dont les traditions de construction locale ont intégré en réponse aux besoins de l'islam à l'époque. Parce qu'à un moment donné, il fallait donner une vision islamique. Et selon la vision de l'Askia Mohamed, une vision islamique à cette cité, c'est pour cela qu'il a créé, comme on appelle, toutes ces pyramides et ces tombeaux, afin vraiment de donner une vision claire à sa communauté. Et en 1497, considérant que son empire est pacifié, c'est en ce moment qu'il aille au pèlerinage en confiant, comme a dit le frère Cissé, en confiant le pouvoir à son frère Omar avant son retour. Donc il reçoit. Ça, un élément aussi très important qu'il faut souligner, c'est après avoir reçu le titre de calife pour le Soudan à l'époque par la Mecque, et encore, pour cela, pour voir comment est-ce qu'il a fait pour consolider son pouvoir à travers l'islam, on a vu qu'il a financé, comme on appelle, et parrainé également le développement des centres d'enseignement islamique en Afrique de l'Ouest. Ça, c'est des éléments très, très importants qui ont permis à l'Askia Mohamed vraiment de pouvoir consolider son pouvoir en s'appuyant sur la religion islamique.
Lassana Cissé, comment le tombeau des Askia a-t-il résisté aux aléas du temps, notamment aux conflits et aux changements politiques au Mali, et quelle a été son importance, disons, dans la transmission de l'histoire du Songhai à travers les générations?
Ouais, question très intéressante. Hein. Bon, le tombeau des Askia, en tant qu'architecture, s'inscrit donc dans la logique de développement, de l'épanouissement du style qu'on a appelé style soudano-sahélien, précisément le style soudanais d'architecture. Et c'est un élément qui fait partie de la culture constructive de l'État. Et il n'est pas le seul monument à résister en terre, je veux dire, à résister au temps. J'ai parlé tantôt des mosquées de Tombouctou, notamment celle de Djingarébé. Et c'est ce qui explique, c'est-à-dire qu'il y a une pratique de construction en terre, en construction en terre durable. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'en 2008, c'est tenu ici à Bamako, la conférence mondiale sur l'étude et la conservation de l'architecture de terre à 2008. La dernière s'est tenue d'ailleurs à Santa Fe, chez vous, là-bas aux États-Unis. C'est pour dire toute l'importance des techniques constructives au Soudan occidental, appelé actuellement Mali, dans cette région, juste au rivage de savane ivoirien. Les Ivoiriens ont inscrit l'ancienne mosquée en terre en 2020 jusqu'en 2020-2021, qui font partie de ce national de sites en terre construits, des monuments, construits en terre qui jonchent toute la région du Sahel. En tout cas, Sahel, Savane et même Sahara. Hein. Donc, il y a ça, il y a la résistance au changement, hein, pas seulement politique, climatique et tout ça. Et au conflit, pour le cas du tombeau des Askias, je vais vous raconter une anecdote. En 2012, quand le Moujaou a occupé Gao, le Moujaou, c'est l'organisation islamique là, les groupes armés terroristes là, quand ils ont occupé Gao, la jeunesse de Gao s'est constituée en bouclier humain pour protéger le tombeau des Askias, pour éviter sa destruction. Comme ça, c'est plus le cas à tous les mausolées à Tombouctou. Voyons quel engagement il y a, c'est au-delà des politiques, hein, sur le plan politique, mais sur le plan transmission. Donc, c'est une pratique, comme il l'a dit, Askias, c'est celui de l'islam, pour vraiment construire l'empire. Mais un des témoignages matériels de cette époque, c'est ensemble mosquées, esplanades et autres. Hein, la stèle funéraire qui était là. Donc c'est une place très forte à Gao. La population est énormément rattachée et présentement il y a une association à Gao de jeunes, hein, qui a beaucoup d'initiatives, qui est beaucoup engagée, qui empêche certaines choses, qu'on fasse certaines choses tout autour du monument avec la croissance démographique, toutes les choses ne sont pas étouffées. Il est inscrit, vous l'avez dit, depuis 2004. Et pour ça, il y a un engagement fort, ça c'est réconfortant, de la communauté locale de Gao. Bon, ça ne suit pas que l'État malien, malgré les contextes difficiles, mais la conservation durable, la préservation du site et sa transmission de génération en génération a été et toujours assurée résolument par la communauté de Gao.
Mohamed, quel est l'impact spirituel et religieux du tombeau aujourd'hui, notamment en tant que site de pèlerinage? Est-il toujours considéré comme un lieu de prière et de recueillement?
Alors, ce site restera toujours un lieu de recueillement. Ce site restera toujours un lieu, c'est-à-dire de réveil, de relever de conscience des jeunes Maliens, car Askias Mohamed a œuvré pour la cohabitation pacifique dans sa communauté. Car Askias Mohamed a œuvré pour vraiment unir les cœurs et les esprits à travers ces mots-là, à travers ces pyramides, à travers vraiment ces pyramides, pour vraiment réunir l'ensemble des fils de l'Empire Songhai autour, c'est-à-dire de la défense de cette patrie, de cette nation, de cette communauté. Donc ce site est toujours considéré, demeurera toujours comme étant un lieu de recueillement. Mais moi je ne dirais pas un lieu de pèlerinage, mais quand même c'est un lieu de recueillement pour tous les enfants de cette région et pour tous les Maliens, pour tous les enfants de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. De temps en temps, les gens viennent rendre visite. Et on a même des histoires de nos anciens grands-parents qui nous disent, voilà, à chaque fois que des gens ont des soucis, et quand ils se recueillent devant ces sites-là où ils viennent avec des soucis, et à leur retour, ces soucis-là sont réglés par la grâce divine qui est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà un peu des symboles spirituels, religieux qui sont là, qui poussent les jeunes et les femmes à être attachés à ces lieux de souvenirs.
Vous suivez le dialogue des religions, nous parlons du tombeau des Askias incarnant l'héritage spirituel et religieux d'une région qui a marqué l'histoire de l'Afrique par son rayonnement islamique. Restez avec nous, nous revenons dans un instant. La Sana Cité, en tant que site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, quelles sont les initiatives actuelles pour protéger et restaurer le tombeau des Askias et comment cela contribue-t-il à la préservation du patrimoine culturel malien?
Merci pour cette question. Alors, effectivement, le tombeau des Askias est inscrit en tant que site du patrimoine mondial depuis 2004. Et cela répond à un certain nombre de mesures à prendre, cela nécessite un certain nombre de mesures à prendre, tant par l'État du Mali, les communautés, que par la communauté internationale. Parce que l'UNESCO, c'est du patrimoine mondial, c'est la convention de 1972 concernant la protection des sites et monuments culturels et naturels. Donc, le Mali, depuis l'inscription des premiers sites, en 1988, Tombouctou Djéné, dans un premier temps, et puis le pays devant en 1989, le Mali a créé des sites déconcentrés de gestion de ces sites, qu'on appelle mission culturelle, pour dépasser sur les trois sites, Djéné, Tombouctou et Bangagara. Mais après l'inscription du Tombo, effectivement, on a créé une autre structure. Mais, vous le savez, en 2012, il y a eu cette crise. Cette crise qui a mobilisé la communauté internationale parce que la destruction des mausolées, c'est des Tombouctou. C'était d'ailleurs, quand c'est tenu à Saint-Pétersbourg, en Russie, la 36e session du comité du patrimoine mondial, on a assisté en direct à la destruction de ces sites-là. L'État du Mali a demandé qu'on inscrive le site du Nord sur la liste en péril. Parce qu'il y a une liste normale, mais il y a une liste du patrimoine mondial en péril. Donc Gao, le tombeau des Askia et puis Tombouctou ont été inscrits sur la liste du patrimoine mondial en péril. Et cela a nécessité la mobilisation de la communauté internationale. On a vu ce qui s'est passé à Tombouctou parce que là, il y a eu des dégâts importants. Mais Gao n'est pas resté en marge. Il y a eu des actions en 2014 avec des formes d'assistance. Et ce qui est aussi, Gao a été touché, le tombeau des Askia a bénéficié d'une protection renforcée dans le cadre de la protection de 1954. Une convention pour la protection des sites en cas de conflit armé, notamment le second protocole de 1999 qui n'avait pas été ratifié par le Mali et qui était nécessaire pour que la communauté intervienne plus vigoureusement. Bon, je ne vais pas dire avec des armes, mais plus vigoureusement. C'est ce qui a été fait en novembre 92. Le Mali a donc ratifié cette convention et le site continue de bénéficier d'une protection renforcée dans le cadre de cette convention. Mais le site demeure toujours aussi la liste en péril et des actions avec différentes formes d'assistance internationale, des fonds mobilisés par le Centre du patrimoine mondial et maintenant la fondation ADEC, qui est une fondation basée à Genève et qui intervient financièrement pour soutenir des actions d'urgence. Le sauvetage des monuments, c'est le cas en Irak, Mossoul, et au Mali ici, je crois, en Ukraine exactement. Il y a des actions vraiment d'envergure qui sont en train de se dérouler pour vraiment assurer la protection, mais toujours en étroite collaboration avec l'importante implication des communautés locales. Et c'est ce que je peux vous dire sur ce point-là, pour dire qu'il y a des mesures fortes qui sont en cours pour sauvegarder, pour conserver durablement ce site monumental et le transmettre aux générations futures.
Merci. Mohamed, le tombeau des Askia est un symbole fort de la diffusion de l'islam en Afrique de l'Ouest. Comment cette propagation religieuse a-t-elle façonné les dynamiques sociales et culturelles de la région et quel héritage reste vivant aujourd'hui? En 2 minutes.
Alors, tout d'abord, avant de se pencher sur cette question de dynamique sociale et culturelle dans la région, il faudrait d'abord reconnaître qu'Askia Mohamed est connu pour avoir propagé la foi islamique en Afrique de l'Ouest et il a également calqué bon nombre de ses lois sur les lois islamiques de l'Empire Songhai. Il a encouragé la propagation de l'islam dans son Afrique natale, mais tout en envoyant les enfants, les jeunes et les femmes vers la science religieuse et vers la science moderne. Ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, notre société, quand nous voyons aujourd'hui, je parle de Mali d'aujourd'hui, le Mali de 2023 et 2024, disons, quand nous voyons aujourd'hui certains prédicateurs fanatiques et religieux qui pensent à l'avènement d'un concept qu'on appelle l'islam politique pour imposer les gens à adhérer à leur façon, c'est-à-dire d'adorer Dieu, à imposer à la société, aux femmes et aux jeunes leur façon d'apparaître. Ça, ces gens-là doivent vraiment se souvenir de ces ressources et de ces ressources de comme on appelle, d'Askia Mohamed, pour dire qu'on peut parler, diviser sa foi, sans pour autant être violent et être un extrémiste religieux. Ça, c'est un aspect très, très important. Quand nous regardons l'aspect, comme on appelle, dynamique sociale et culturelle, Askia Mohamed avait compris qu'à travers sa foi, qu'à travers la religion islamique, qu'en envoyant les enfants aller, comme on appelle, à la quête du savoir islamique, et des enfants déjà bien éduqués à travers leur foi, peuvent bien vraiment être des bons citoyens dans leur communauté. Donc aujourd'hui, même nous aujourd'hui au Mali, nous devons se souvenir, prendre en exemple cette pratique-là pour vraiment enseigner nos différentes fois, qu'ils soient la foi chrétienne ou la foi musulmane, à l'école, même si nous sommes dans une république laïque, pour vraiment enfin empêcher l'intégration dans les groupes extrémistes violents et terroristes. Et bandits et narcotrafiquants de jeunes. Ça, c'est un aspect très, très important. À l'époque, les dynamiques sociales et culturelles ont été, c'est-à-dire, il y a eu une sorte de rotation entre ces dynamiques-là, à travers vraiment l'exemplarité même du chef spirituel et du chef politique de l'époque qui était Askia Mohamed.
En une minute, Mohamed, selon vous, quelles sont les leçons spirituelles et historiques que nous pouvons tirer du tombeau des Askia, à la fois pour comprendre notre passé et pour éclairer notre présent? Mohamed.
Oui, les leçons historiques peuvent être quoi? C'est la grandeur du Mali, c'est la bravoure de cet homme et de cet empire et de ces Maliens d'époque. Donc aujourd'hui, nous, Mali, aujourd'hui, à cette période de transition confrontée, c'est-à-dire à certains ennemis de l'extérieur, nous devons être forts, braves, mais toujours rester soudés. C'est cette leçon que vraiment nous tirons de la vie d'Askia Mohamed.
Lassana Cissé, la même question, que faut-il comprendre? Et les leçons spirituelles et historiques que nous pouvons tirer du tombeau des Askia.
Question intéressante, hein. Comme vient de dire Mohamed, en fait, le site a toujours joué un rôle fondamental dans l'islam et à Gao. Déjà, Askia Mohamed l'utilisait comme lieu de prière. Et d'où d'ailleurs l'appellation Askia Jira. Jira, littéralement, je pense, là, ça veut dire mosquée de l'Askia, Askia Jira. Donc, cette dénomination est de loin celle que préfèrent d'ailleurs les populations de Gao. L'appellation tombeau des Askia, apparemment, les remontant d'après les informations qu'au début de la période coloniale. Et ce qui est important de dire, c'est que actuellement, il y a l'esplanade qui a toujours servi de lieu de prière, de grandes fêtes de Tabaski, de Ramadan, qui regroupe. Donc c'est une place qui regroupe pour les grandes prières de la ville. Et ça, c'est un moyen d'assurer, hein, de la compréhension du passé et pour éclairer le présent et transmettre. Parce que c'est le passé, le présent et l'avenir. C'est ça le patrimoine. Donc il y a cette action sur la base d'un islam, vraiment l'islam accepté comme tel, d'ailleurs les jeunes, pour convaincre les terroristes qui voulaient détruire la pyramide de la capitale. Ils ont dit de Gao est dans l'islam depuis au moins bien avant même Askia Mohamed. Donc nous sommes des musulmans. Nous n'avons aucune il n'y a pas de pratique animiste de pensée pour qui est l'islam.
Merci.
Fondamentalement.
Oui, merci beaucoup, Lassana Cissé, consultant et ancien directeur national du patrimoine culturel du Mali. Merci à Mohamed Abdelhari Al-Khalil, sociologue et philosophe engagé, spécialiste des questions sociales et sécuritaires du Sahel. Nous arrivons au terme de cette édition de Dialogue des religions. Le tombeau des Askia reste un témoin silencieux, mais puissant d'une époque glorieuse de l'histoire africaine et de l'influence durable de l'islam dans la région. À travers ce site, nous découvrons non seulement un lieu de mémoire, mais aussi un héritage spirituel qui continue de résonner aujourd'hui. Merci donc à vous, nos invités, pour ces éclairages fascinants sur ce joyau historique. Eric Manelakiza a été avec vous. Merci à nos chers auditeurs. N'oublions jamais que préserver notre patrimoine, c'est aussi garder vivantes nos racines et notre histoire. Josène Morissin assurait la réalisation. À très bientôt pour un prochain épisode sur le tombeau des Askia. À la prochaine.